Nous partons en balade à la découverte de ce que l'on appelle les amphibiens qui, quand le printemps commence à se pointer, se réveillent pour quelque chose d'important pour eux, et vous allez comprendre pourquoi à travers cette balade H2O. Pour cela, nous sommes dans le département de l'Allier, nous sommes à deux pas de la commune de Meillé, au bord d'une route. C'est la raison pour laquelle, au début de cette balade, vous allez entendre beaucoup de voitures, des voitures qui, justement, peuvent poser quelques problèmes vis-à-vis de ces amphibiens. On va en parler en détail en compagnie de Romain Deschamps, que nous allons retrouver dans un instant.
Découvrir l'Auvergne.
H2O vous emmène en balade.
Romain Deschamps, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes au bord d'une route assez fréquentée, c'est le moins qu'on puisse dire. On est ici pour quelle raison, en fin de compte ?
On est ici parce qu'on est sur une zone de fort écrasement des amphibiens, tout ce qui est crapauds, grenouilles, tritons, sur la commune de Meillé. Donc ça fait plusieurs années qu'on sait maintenant qu'il y a des gros écrasements sur cette départementale. Et donc on est venu ici pour installer un crapaudrome qui permet de récupérer les amphibiens et d'éviter qu'ils se fassent écraser sur la route.
Ah ben on va découvrir ça, on va laisser passer les voitures. Et on va vous présenter ça en détail.
H2O. Découvrir. Observer.
S'évader. Respirer.
Contempler. H2O en balade.
Donc Romain, nous sommes au bord d'une départementale, hein, pas loin de Meillé. On est entre Meillé et quoi là ?
On est pas loin de Souvigny.
Meillé-Souvigny, et donc on longe une espèce de bandelette jaune. On sent que vous l'avez mise pour qu'elle se voit.
C'est flashy. Ouais.
Voilà, c'est flashy. Et bah, expliquez-nous un petit peu le dispositif qui est installé là.
Alors, le concept est très simple, en fait, c'est d'éviter que les amphibiens aillent sur la route. Donc le but, c'est qu'on a installé du coup un filet avec des piquets qu'on a légèrement enterrés dans le sol. Donc les amphibiens, quand ils arrivent, ils butent contre le filet. Et on a enterré des seaux, du coup, le long du filet, tous les 10 mètres, vraiment collés au filet. Donc les amphibiens, en longeant le filet, finissent par tomber dans les seaux. Et on les récupère, nous, tous les matins.
Tous les matins ?
Tous les matins, ouais, ouais. Faut pas, parce que les amphibiens, du coup, sont nocturnes. Donc ils traversent, ils cherchent à traverser la nuit. Donc ils viennent la nuit, ils tombent dans les seaux. Donc tous les matins, nous, on vient les récupérer pour pas qu'ils viennent se faire manger, etc.
Ouais. On imagine qu'avant la mise en place de ce dispositif, donc le crapaudrome, c'est comme ça que vous l'appelez ?
Crapaudrome, ouais.
Crapaudrome, ça devait être sur la route une véritable hécatombe, là.
Effectivement, en fait, c'est un lieu qui est remonté en 2005. On avait fait une enquête sur les lieux d'écrasement comme ça des amphibiens. Et donc, un collègue à moi est venu se rendre compte la nuit. Et donc, il m'a expliqué un peu ce qu'il avait vu ce jour-là. C'était des centaines de crapauds sur la route. Et donc, on entendait les voitures rouler dessus vraiment. Donc, c'est un écrasement assez important. Et quand on est venu le premier jour installer le crapaudrome, il y avait déjà quelques écrasements parce que les crapauds avaient déjà commencé à traverser.
En plus, les gigs sont un petit peu rebattus en ce moment, c'est-à-dire que la migration peut commencer très tôt en plus, à des moments où le dispositif n'est peut-être pas déjà en place.
C'est ça en fait, les amphibiens ils dépendent vraiment de la température, contrairement aux oiseaux qui eux dépendent plutôt de la luminosité, de la durée du jour. Eux c'est vraiment dès qu'ils commencent à faire doux et humide dans leur habitat. Et du coup on a eu des premiers redoux fin janvier, donc on est venu jeter un œil déjà à ce moment-là, il y avait déjà quelques écrasements. Le souci c'est que comme ça demande beaucoup de personnes pour venir récupérer les seaux, tout ça, on ne peut pas se permettre de le mettre sur une trop grande durée. Donc voilà, on le démarre généralement en février, le gros de la migration a lieu plutôt fin février, début mars. Donc on met vraiment à cette période-là.
Alors, certains vont se poser peut-être cette question-là, mais pourquoi les crapauds voyagent-ils et traversent-ils, s'obstinent-ils à traverser cette route ?
Alors ici, on est dans un contexte assez particulier, c'est qu'en fait, on a d'un côté de la route la forêt qui accueille les grenouilles, les crapauds l'hiver, donc ils passent l'hiver dans les souches, sous les feuilles mortes, voilà, au pied des arbres. Et de l'autre côté de la route, on a un petit étang sans poissons, donc qui est tip-top pour eux. Le souci, c'est qu'il y a cette route en fait sur leur passage, tout simplement. Donc l'hiver, ils viennent dans le bois, et au printemps, ils traversent pour aller jusqu'à l'étang avec la route au milieu.
Parce que contrairement à une idée reçue, tous les amphibiens ne vivent pas forcément tout le temps dans l'eau. Hein.
Effectivement, les amphibiens, on les trouve dans l'eau, surtout pendant leur reproduction, donc quand ils viennent se reproduire. Il n'y a que la grenouille verte qui est vraiment assez inféodée, vraiment au milieu aquatique, qui est souvent toujours dans la mare toute l'année. Le reste des amphibiens viennent pour se reproduire. Une fois qu'ils sont reproduits, qu'ils ont pondu leurs œufs, hop, ils ressortent, ils retournent se mettre dans une souche ou sous les feuilles.
C'est peut-être un peu moins le cas avec les tritons aussi.
Les tritons, c'est exactement pareil.
Ah, c'est pareil.
Ils
viennent,
oui. Alors, ils sont dans l'eau sur une plus grande période, entre le mois de février et le mois de juin à peu près. Mais dès le mois de juin, dès qu'ils ont fini de se reproduire, ils sortent et ils se remettent eux aussi sous les feuilles et les souches.
Alors, on aurait pu penser que les crapauds se passeraient le mot et disent bah, « les gars, n'allez pas par là », ou les filles aussi, hein, « n'allez pas par là », parce que c'est dangereux. En fait, ils passent ici obstinément parce qu'il y a une raison pour cela.
C'est qu'en fait, les amphibiens, généralement, sont accrochés à un endroit particulier où ils se reproduisent chaque année. Ce qui se passe, c'est que les crapauds ont une grande capacité de dispersion, c'est-à-dire que le crapaud commun, il peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres, voire jusqu'à 5 kilomètres pour se déplacer. Donc généralement, ils vont toujours au même endroit, mais quand les petits crapauds naissent, enfin sortent de la mare, ils se dispersent et la plupart reviennent ici, mais d'autres se dispersent sur d'autres mares aux alentours. Voilà, donc la plupart des crapauds qui sont ici sont ceux qui sont vraiment inféodés à l'étang qui est en bas, mais on a quand même des points d'eau un peu partout. Donc il y a des échanges, c'est pas forcément les mêmes crapauds chaque année, voilà, il y a des échanges qui se font dans le paysage.
Ils ne vont pas forcément se reproduire là où ils sont nés ?
En majorité, si, mais il y en a quand même beaucoup qui se dispersent, qui permet d'avoir des échanges génétiques, donc c'est intéressant.
Si on avait une vue aérienne du lieu où on se trouve, on verrait qu'il y a des points d'eau assez dispersés, assez diffus, hein. Il y en a pas mal même dans le secteur.
C'est une des caractéristiques du bocage, c'est qu'on a quand même pas mal de points d'eau qui forment des petits lieux un peu ponctuels comme ça, et puis il y a les haies qui permettent des liens entre ces différents points d'eau.
Ce que je vous propose, c'est d'aller voir peut-être, une fois qu'on aura longé le crapaudrome, si on trouve un crapaud, d'aller ensuite vers l'étang pour le relâcher.
Tout à fait, c'est le but en tout cas de les faire traverser, d'aller les remettre de l'autre côté de la route pour qu'ils finissent leur voyage jusqu'à l'étang.
Bien, eh ben, on va continuer à regarder dans les seaux au cas où, on ne sait jamais.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Nous sommes sur la commune de Meillé, nous sommes en compagnie de Romain Deschamps du Conservatoire d'espaces naturels Allier, avec qui nous nous intéressons à une opération qui est conduite par le Conservatoire depuis quelques années au secours des amphibiens et en particulier des crapauds, salamandres et autres petites bêtes qui sont tentées de traverser la route qu'on entend là derrière ma voix, une route qui est malheureusement à l'origine d'une hécatombe chaque année s'il n'y avait pas le dispositif installé. Donc Romain, on rappelle que vous avez installé un crapaudrome qui est donc une barrière que vous installez au lieu du passage des amphibiens, qui à un moment donné va les faire tomber dans des seaux. Et il y a un relevé tous les jours du contenu des seaux, hein, c'est ça ?
C'est ça, tous les jours on vient et on récupère les amphibiens qui ont voulu traverser dans la nuit et qui malheureusement sont tombés contre ce filet et qui ont fini dans les seaux. Donc on récupère tout ce qui est dedans.
Qui heureusement sont tombés sur le filet.
Heureusement sont dedans.
Et sinon c'est la roue des voitures.
C'est ça. Alors on n'a pas que des amphibiens, il peut arriver parfois qu'on ait aussi des petits mammifères, des petites musaraignes, des petits mulots, tout ça. Mais je ne sais pas si vous avez vu que dedans on met du coup un bâton dans les seaux. Qui permet aux petits mammifères de grimper, de pouvoir sortir. Les amphibiens, eux, ne s'en sont pas capables. Donc voilà, ça permet d'éviter qu'il y ait trop de casse. Les petits mammifères peuvent éventuellement se défendre contre les amphibiens et les blesser, ou peuvent mourir de froid ou autre. Donc comme ça, ils peuvent sortir et ils ne sont pas piégés.
Un petit dispositif qu'on peut mettre aussi quand on a une mare chez soi. Si un petit mammifère tombait dedans, il pourrait avoir l'alternative de sortir de la mare grâce à un morceau de bois bien implanté.
Une planche ou autre, oui.
Une planche ou autre. Là, on est sur un étang qui est très joli, hein, cela dit. Alors ça, c'est l'ouvrage de l'homme, là.
Là, c'est l'ouvrage de l'homme, on le voit très très bien, puisqu'on est juste à côté d'un petit muret en pierre qui n'est pas du tout naturel, on le voit bien.
Qui fait une digue.
C'est une petite digue, voilà, qui empêche à l'étang de se déverser de l'autre côté, oui, tout à fait. Et c'est un étang qui est très intéressant parce que c'est un étang dans lequel on n'a pas de poissons. Il devait y en avoir, il me semble qu'il y en avait quand on était venu la première fois, sauf qu'avec les sécheresses de 2019, de 2021, il a fini par s'assécher, donc il n'y a plus de poissons a priori dedans, ce qui fait qu'on a des herbiers très intéressants dans l'eau qui permettent d'accueillir tout ce qui est insectes, amphibiens, pour leurs pontes, pour les lézards, les têtards, pas les lézards. On a quelques saules, on a un grand chêne qui permet d'apporter un peu d'ombre, éviter que l'eau chauffe de trop en plein été. Donc c'est un étang qui est très très bien placé, on comprend pourquoi les crapauds l'ont choisi.
Oui, oui, on comprend effectivement, il devrait avoir au moins 3 étoiles à minimum. Hein, à minima,
au moins
hein.
Ça, oui. Bon.
Et on a aussi la configuration d'une zone humide au-delà de l'étang. Hein, on a des petits îlots de végétation qui poussent ici et là. Donc on peut comprendre assez rapidement que ça peut être idéal aussi pour protéger les pontes là.
Alors ça protège les ponts, donc c'est des joncs en fait qui vont permettre effectivement d'apporter des refuges, des abris pour surtout les petites grenouilles, les petites rainettes ou tout ça qui vont grimper dans ces joncs-là et qui seront protégés des prédateurs. Ici on est effectivement dans une zone qui n'est pas très très profonde, donc c'est pour ça que se développe pas mal d'herbiers, donc des plantes qu'on voit dans l'eau. Comme ça, et c'est un peu plus profond, un peu plus loin, donc ça permet d'étager un peu les différentes populations d'animaux. Les amphibiens vont rester plutôt dans les zones pas trop trop profondes, et certains insectes, certaines larves vont plutôt être, elles, bien au fond de l'étang, vraiment dans la vase et tout ça. Donc chacun y trouve un peu son compte.
On a une idée en chiffres ou en moyenne du nombre de crapauds, de grenouilles, de salamandres qui viennent dans ce secteur-là ?
Alors en tout cas, on a les chiffres de nos derniers crapaudromes qu'on avait mis en place en 2018-2019. En 2019, donc on était sur un crapaudrome un petit peu plus long que celui de cette année. On avait récupéré 1664 amphibiens, la plupart des crapauds, mais aussi des salamandres tachetées, des grenouilles vertes, des grenouilles rousses, grenouilles agiles et tritons palmés.
Ah ouais, pas mal.
Ça fait pas mal, ouais.
Ouais, belle diversité. Et alors, il est d'autant plus important de permettre à tous ces amphibiens d'arriver à bon port, ou à bon étang plutôt, parce que, en fait, c'est une fois arrivé dans l'eau qu'aura lieu le processus de reproduction, hein.
C'est ça, en fait dans les seaux ça peut arriver qu'on trouve un mâle accroché sur le dos d'une femelle, ce qu'on appelle l'amplexus, mais c'est pas pour autant qu'ils vont aller se reproduire dans le seau, etc. Non, ils ont vraiment besoin de l'eau pour pondre leurs œufs. Donc c'est vraiment une fois arrivé à l'étang que donc les mâles arrivent généralement en premier. Comme ça, une fois qu'ils sont arrivés, ils guettent dès que les premières femelles arrivent pour être les premiers à avoir la femelle pour se reproduire. Mais ils ont effectivement besoin de l'eau pour se reproduire, en tout cas pour les pontes et pour les têtards.
Ouais. Parfois, la reproduction, en particulier chez les crapauds, est assez impressionnante parce que les femelles peuvent être extrêmement sollicitées et se retrouver avec plusieurs crapauds sur le dos.
Quand on est en plein dans la période où les mâles sont bien actifs, on peut retrouver une femelle avec 2, 3, voire 4 mâles, et ça arrive des fois de retrouver des femelles noyées, parce que les mâles ont été trop nombreux sur elle, ils n'ont pas réussi, ils l'ont mis sur le dos ou quoi, et du coup bah, elle n'a pas pu remonter pour respirer, parce que les amphibiens, même s'ils peuvent respirer par leur peau sous l'eau, c'est quelque chose de seulement temporaire, et quand ils sont bien actifs, ils ont besoin de remonter, respirer de l'air classique, on va dire. Donc voilà, mais ça arrive souvent qu'on puisse retrouver des femelles effectivement qui ont succombé à l'attaque des mâles, qui pensaient bien faire, mais qui sont tellement dans le vif du truc que voilà.
Ouais, parce que ce que vous avez appelé l'amplexus, c'est un câlin, je te sers très fort quoi.
L'amplexus en fait c'est le mâle qui monte sur la femelle, qui la tient jusqu'à ce qu'elle ponde ses œufs, puisqu'en fait il n'y a pas d'accouplement chez les amphibiens, en fait la femelle et le mâle sont l'un contre l'autre, mais du coup la femelle va pondre ses œufs et le mâle va déposer sa semence ensuite pour féconder les œufs directement dans l'eau.
Ouais, c'est une action qui, vu expliquée comme ça, on se dit qu'il y a énormément d'aléas pour que ça ne marche pas en fait. Hein.
C'est ça, tout à fait. Il suffit que la femelle ponde un peu rapidement, que le mâle ne soit pas trop réactif, ou à l'inverse, que le mâle y aille fort et puis que la femelle ne suive pas derrière pour qu'il y ait. Voilà. Donc généralement, une ponte donne presque 100% d'éclosion des œufs. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que sur 2000-3000 œufs qui sont pondus par une seule femelle, il n'y en a que 2 à la fin qui arrivent à l'état adulte.
H2O. Partez en balade.
Alors, nous avons fait quelques kilomètres. Nous sommes toujours en compagnie de Romain Deschamps du Conservatoire d'Espace Naturel à Lier. Nous sommes à côté toujours du petit village de Meillé, en plein cœur du Bourbonnais. Et cette fois-ci, on est à côté d'une mare, une mare agricole, on pourrait l'appeler comme ça, Romain ?
Oui, c'est une mare qui est complètement incluse dans un parc de pâturage. Donc, et puis on voit bien qu'il y a des petites délimitations qui ont été mises pour empêcher aux vaches de trop venir se mettre dans la vase. Donc oui, c'est complètement une mare qui est incluse dans le panorama agricole de Meillé.
Donc ici, on est dans un endroit qui, d'un premier coup d'œil, nous incite quand même à penser que, certes, ça a été là aussi creusé par la main de l'homme, mais c'est devenu aussi un lieu où la biodiversité peut s'exprimer là.
Là, on voit que c'est une très très belle mare bocagère, effectivement. Donc on devine par la forme et par son positionnement que c'est pas quelque chose de naturel. Par contre, on voit que la nature a complètement pris place dans le milieu. On a des très très beaux herbiers, comme sur l'étang de tout à l'heure. Des très très beaux herbiers. On a des joncs, on a des petits buissons sur les côtés qui sont très bons pour les rainettes, par exemple. Et on imagine très bien ici qu'il puisse y avoir des grenouilles et toutes sortes de choses qui puissent arriver dès le printemps. L'eau est très très claire, donc on suppose qu'il n'y a pas de poissons. Après, dans une petite mare comme ça, c'est assez rare, mais ça peut arriver qu'il y ait des gens qui mettent des poissons pour la pêche, mais en tout cas c'est très beau. Le seul petit point noir, on pourrait dire, c'est qu'a priori il y aurait du ragondin, puisqu'on a trouvé des crottes de ragondin dans l'eau.
Ouais, qui flottent sur la surface. Effectivement, là ça peut être un souci, parce que le ragondin peut potentiellement se délecter d'une grenouille, d'un crapaud.
Non, ça il va pas trop y toucher. Par contre, c'est un gros consommateur de plantes de bord de mare, donc il va manger beaucoup de végétation, et surtout il va creuser des galeries, des trous pour se reproduire, pour ses abris. Et quand on est sur des choses comme ça qui sont assez imperméabilisées, ça peut faire des trous et ça peut permettre à l'eau de s'échapper et de faire baisser drastiquement le niveau de la mare. Et il suffit qu'il y ait un petit peu de soleil cet été pour que ça la sèche beaucoup plus vite.
Ouais. Alors certains ont peut-être dit manger un crapaud, faut se lever de bonne heure. Il y a des animaux qui le font. Je sais que les martres en particulier le font, et elles ont une technique très particulière d'ailleurs pour manger les crapauds.
Les martres, les blaireaux également, oui, ils sont très très friands de ce type d'amphibiens. Et généralement, quand il y a même la loutre également fait ça. Quand on retrouve généralement au bord de l'eau une dépouille, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus d'os, il n'y a plus rien, il n'y a plus que la dépouille, la peau de l'amphibien, on sait qu'il y a un petit mammifère qui est passé dans le coin.
Ouais. C'est comme un pyjama pour les enfants, hein. Il reste que le pyjama, quoi.
C'est ça.
Et ici, donc, On a une route, comme tout à l'heure, hein, qui passe à proximité. Est-ce que là, potentiellement, ça peut poser un problème ?
Alors là, ça peut potentiellement poser un problème, bien que ici, on est connecté à tout le bocage grâce aux haies. On voit qu'il y a des haies, donc ils sont en plus ou moins bon état, mais en tout cas, qui servent de ce qu'on appelle des corridors. Ça fait comme des routes, en fait, pour les amphibiens, pour les petits mammifères, pour les oiseaux. Et ça permet comme ça qu'ils suivent les haies, ça les empêche, en partie en tout cas, de traverser la route. Ici, on n'est pas sur une route très passante, même si on entend que ça passe quand même. Mais voilà, il y a quand même beaucoup moins d'écrasement ici. D'autant plus qu'ici, on n'a pas forcément de boisement ou autre. Donc là, les amphibiens vont être beaucoup plus diffus. Donc, ce qui fait que ceux qui vont choisir d'aller en face, malheureusement, vont peut-être passer sur la route. Mais le reste peut partir dans le bocage, dans la prairie, dans les haies, au pied des arbres. Donc ici, on a une mortalité qui est quand même moindre.
Tous voyagent exclusivement la nuit, ou est-ce qu'il peut y avoir des voyages diurnes ?
En grande partie, les amphibiens sont plutôt nocturnes parce que la nuit il fait moins chaud, parce que c'est un peu plus humide. Il y a quelques espèces qui sont quand même bien actives de jour, notamment quand c'est pluvieux. Par exemple, la salamandre peut sortir de jour si on a une bonne pluviométrie. Les grenouilles vertes également sont assez actives de jour parce qu'elles chantent beaucoup et elles peuvent se mettre sur le bord de la mare et puis éventuellement se disperser un peu dans la prairie. Mais très très globalement, c'est des animaux qui sont quand même nocturnes.
Et ici, une mare comme celle-ci, c'est potentiellement quelque chose que vous pouvez suivre, recenser et suivre ?
Alors nous, ça nous intéresse effectivement d'avoir une idée un peu de la répartition des mares sur le territoire. Alors pour deux raisons. La première, c'est déjà de les suivre, de voir un peu celles qui disparaissent, celles qui éventuellement apparaissent, même si c'est de plus en plus rare, mais suivre un peu la disparition et surtout voir où est-ce qu'il y aurait des manques. Parce qu'en fait, les mares fonctionnent en réseau. C'est-à-dire qu'une mare qui va être assez proche d'une autre va permettre des échanges entre les amphibiens, les libellules et tout ça. Sauf que si les mares sont trop distantes les unes des autres, il n'y a plus cette connexion-là. Et s'il y a une mare qui est vraiment isolée dans un coin, les animaux qui vont être dedans vont finir par disparaître. Et donc la mare sera juste un trou d'eau sans forcément de vie dedans.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Nous sommes en plein cœur du Bourbonnais, nous sommes sous le chant de l'alouette Lulu qui vocalise parce que le printemps n'est pas loin. Nous sommes en compagnie de Romain Deschamps du Conservatoire d'espaces naturels Allier avec qui on s'intéresse aux actions conduites par le Conservatoire et d'autres partenaires autour des amphibiens et comment leur venir en aide pour éviter en particulier l'écrasement avec les routes. On a vu donc le crapaudrome au début de cette balade, situé sur une route assez passagère et non loin d'un étang. Là, on s'est déporté un petit peu pour s'écarter un peu de la circulation. On est à côté d'une mare, une jolie mare agricole. On voit qu'il y a d'ailleurs une petite zone qui a été aménagée pour que les bêtes puissent venir boire, mais sans aller trop loin.
C'est ça, oui, le but, c'est, dans l'idéal en tout cas, c'est de permettre à la mare de ne pas trop être piétinée par les vaches qui vont venir retourner la vase. Une eau qui est trop retournée, une vase qui est trop retournée, va faire que l'eau va être très trouble et donc ça va limiter l'apport en lumière du soleil, et donc ça va limiter le développement des plantes aquatiques.
Et alors, vous nous avez expliqué durant cette balade qu'il était important d'avoir ces haies que l'on peut observer là autour de nous, parce que ce sont des corridors, c'est la fameuse trame verte. Et puis, ces mares qui sont dispersées un peu sur le territoire du Bourbonnais constituent ce qu'on peut appeler une trame bleue également, non ?
C'est ça, oui, la trame verte et bleue, c'est tout à fait ça. C'est tous les éléments paysagers qui vont permettre aux espèces de divaguer dans le paysage sans avoir de coupure brutale qui fait que ça va fragmenter le paysage. Les trames vertes, c'est principalement les haies, les prairies, tous les boisements également. Et la trame bleue, c'est effectivement les points d'eau, mais aussi tout ce qui peut les connecter, donc tous les fossés humides, toutes les rivières, les étangs, etc.
Et le conservatoire a fait un énorme travail autour des mares.
On a mené effectivement un projet sur 2 ans, presque 3 ans, sur le recensement des mares. On a fait un projet participatif où chacun pouvait nous faire remonter l'observation de mares dans le paysage bourbonnais. Le but étant d'avoir une vision la plus exhaustive possible. Et notamment, ce qui est très important, c'est tout ce qui est mares qu'on ne peut pas trouver en ce qu'on appelle la photo-interprétation. C'est-à-dire quand on a une vision satellite du coup du paysage, les mares qui sont au milieu d'une prairie, on va les repérer très facilement. Par contre, une mare qui va être au pied d'un arbre ou dans un boisement, ça, on ne peut pas la repérer facilement. Et donc, il est nécessaire d'aller sur le terrain pour la repérer. Donc on faisait appel aux gens pour effectivement, dès qu'ils allaient se balader le dimanche en famille ou autre, nous faire remonter l'observation d'une mare effectivement en forêt, le long d'une haie qu'on ne pourrait pas forcément trouver nous-mêmes.
Et historiquement, ces mares sont nées donc de la main de l'homme, essentiellement pour abreuver le bétail.
En grande partie pour ça, il y avait aussi des grosses réserves, alors ça plutôt dans les bourgs, des grosses réserves pour les incendies, pour les pompiers, pour venir chercher de l'eau, pour éteindre les incendies. Mais globalement, voilà, c'est des mares qui étaient d'utilité soit pour le bétail, soit également pour laver les vêtements, etc.
Quand vous avez commencé à vous intéresser à ce patrimoine, vous avez aussi lancé parfois des programmes de réhabilitation des mares. Quand on parle de réhabilitation d'une mare, c'est quoi exactement comme intervention ?
Alors nous, on parle plutôt de restauration, du coup. C'est-à-dire, quand on a une mare, on va faire ce qu'on appelle un diagnostic, c'est-à-dire on va arriver et on va regarder tout ce qui marche, tout ce qui ne marche pas sur la mare. On va faire des inventaires de la faune, de la flore. On va voir comment la mare est alimentée. Est-ce que c'est juste par la pluie ? Est-ce que c'est un fossé qui se jette dedans ? Dans ce cas-là, l'eau du fossé, d'où est-ce qu'elle vient ? Est-ce qu'elle vient des eaux usées des maisons ? Est-ce que c'est juste du ruissellement lié à la pluie ? Est-ce que ça vient d'un autre étang qui pourrait potentiellement apporter du poisson, par exemple ? Voilà, on fait un diagnostic et ensuite on voit est-ce que la mare est de bonne qualité ? Est-ce qu'il y a nécessairement besoin d'intervenir ? Et s'il y a besoin d'intervenir, qu'est-ce qu'on va y faire ? Généralement, pour restaurer une mare, on va la curer. C'est-à-dire qu'on va enlever le surplus de vase et de matière organique qui s'est déposé au fond et qui entraîne petit à petit l'atterrissement. C'est-à-dire que la vase, à force, va se cumuler. Il y aura beaucoup moins d'eau. Donc un assèchement forcément plus rapide. Et dès qu'on n'a que de la vase, bah, s'installent les saules, les arbres, la végétation. Et donc la mare disparaît. Donc le but généralement, c'est juste de restaurer la mare par un curage. Et le fait de curer va ramener d'autres plantes, des plantes qui étaient vraiment enfouies au fond de la vase, va amener de nouvelles espèces avec les plantes qui vont arriver. Peut-être des nouvelles libellules, voilà, tout s'enchaîne en fait très rapidement dès le printemps d'après la restauration, sachant que la restauration se fait plutôt sur les mois d'automne, d'hiver, quand on a le moins de choses possible dans la mare.
Ouais, et puis quand on se penche un petit peu sur l'intérêt des zones humides en général et des mares en particulier, on voit que ça concerne un cortège faunistique et floristique particulièrement vaste.
Les zones humides, elles renferment une grosse majorité d'espèces. Pour les oiseaux, de mémoire, je crois que c'est plus de 60% des espèces d'oiseaux qui dépendent complètement des zones humides, soit pour se reproduire, soit pour se nourrir, soit pour trouver de l'eau simplement pour boire. Voilà, les zones humides, c'est vraiment des espaces de vie très très importants, et on le voit, une mare qui est en mauvais état, on va avoir une petite dizaine d'espèces de libellules, par exemple. On va avoir deux espèces d'amphibiens les moins difficiles, donc le triton palmier et la grenouille verte. Et dès qu'on va la restaurer, que l'eau va être plus claire, qu'on va avoir plus de végétation, etc., on peut arriver jusqu'à 20 ou 30 espèces de libellules. On peut avoir jusqu'à 7 ou 8 espèces d'amphibiens. Donc il y a vraiment un enjeu sur ces milieux-là.
Ouais, ce sont des zones refuges, hein, alors.
Complètement, oui.
On va continuer à évoquer donc cette richesse que l'on peut découvrir ici sur le territoire du Bourbonnais. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de rencontrer quelqu'un qui représente une fondation qui œuvre aussi pour vous donner un coup de main dans vos actions. C'est la fondation du PAL, le PAL, hein, qui est le parc animalier ici dans le Bourbonnais. Et on va découvrir cela en compagnie de Camille. On va la rejoindre si vous le voulez bien.
On y va.
Eh bien c'est parti. Elle est au milieu de la mare, elle a mis sa bouée licorne.
Respirer, apprendre, s'évader, découvrir. H2O en balade.
Nous sommes dans le département de l'Allier, au cœur du Bourbonnais, et on s'intéresse à des actions menées en faveur des amphibiens et des milieux humides qui sont associés bien évidemment à ces petites bêtes. Nous sommes en compagnie de Romain Deschamps du Conservatoire d'espaces naturels Allier, et Camille de la Fondation Nature Le Pal vient de nous rejoindre. Alors dans un premier temps, vous ne m'en voudrez pas, hein, Camille, je vais donner la parole à Romain, je sais que ce n'est pas très sympathique.
C'est pas très galant, voilà.
Aucun problème.
Romain, pour vous, il est important d'avoir des partenaires dans vos actions, parce que ce sont des actions qui ont un coût, forcément. Le crapaudrome qu'on a vu au début de notre balade, c'est quand même plus de 300 mètres de structure adaptée pour que l'opération réussisse. Et pour ça, il faut des partenaires. Comment se passe justement la prospection des partenaires ?
Alors généralement, ça part sur déjà de la communication. On parle de nous, on fait un peu connaître ce qu'on fait, etc. Et puis c'est l'occasion vraiment de rencontre, où un jour on va rencontrer une personne, puis ah bah tiens, on va parler de ça, bah c'est intéressant, nous on fait ça justement, on cherchait des... C'est beaucoup sur de la rencontre.
Du bouche à oreille aussi.
Du bouche à oreille, pas forcément de la... On appelle ça de la prospection. Quand on a besoin, ou qu'on sait qu'on va avoir un gros projet, où il y a peut-être potentiellement besoin de plusieurs partenaires, on peut effectivement aller à la recherche ou proposer, faire connaître un projet, puis voir s'il y a du répondant en face. En ce qui concerne Camille, de mémoire, je crois que c'était à l'occasion d'un stand ou d'une structure comme ça, où on est tombé dessus, puis on est tombé sur Camille, la pauvre.
Et en
discutant, et donc on a vu qu'on avait quand même des objectifs communs sur la préservation de la biodiversité dans le monde, mais aussi plus localement. Du coup, c'est venu comme ça, et petit à petit, il y a des choses qui se sont créées concrètement, et cette année, c'est vrai que c'est le premier projet vraiment hyper concret concret qu'on fait avec la Fondation et c'est super.
Camille, vous vous souvenez de cette rencontre donc avec le,
oui,
mais le grand Romain?
Effectivement, Romain m'est tombé dessus. Oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés à diverses occasions et puis bah, moi je suis un peu alerte sur effectivement ce qui peut exister comme structure préservant la biodiversité puisque c'est le cœur de mon travail. Moi je suis coordinatrice des programmes à la Fondation Le Pal Nature. En fait, j'ai souvent des sollicitations, généralement, j'ai pas besoin de prospecter pour qu'on me demande de l'argent. C'est un peu l'inverse de Romain. Et puis, bah, forcément, moi, je suis amenée à faire de la sensibilisation, à intervenir dans différents lieux. Et je pense qu'on s'est rencontrés. Et puis, je voyais souvent le Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier. Moi, je suis arrivée il y a 4 ans et je me dis, mais pourquoi on bosse pas avec eux? Mais c'est incroyable. On est quand même au cœur du département. Je suis sûre qu'il y a des choses à faire. Et comme je suis une personne qui, généralement, ne lâche pas l'affaire, comme on dit, je me suis dit, bon, allez, on va creuser un peu et on va voir ce qu'on peut faire et comment on peut les accompagner. Et moi, je me souvenais effectivement qu'il y avait eu l'existence du crapaudrome puisque j'avais été un peu sensibilisée à ça, personnellement. Et de fil en aiguille, on s'est dit, on va faire un festival. Et de fil en aiguille, on est parti sur la création de ce festival. Et on s'est dit, bah, on veut que les choses soient concrètes. Et
festival,
ce nom, Crapahut.
Crapahut.
Et donc voilà, en fait, ce festival, il a été vraiment là en termes de sensibilisation dans un premier temps. Puis après, on s'est dit, bah là, il faut qu'on concrétise des choses. Allez, on y va, on fait le crapaudrome. Et puis ça s'est fait comme ça, quoi.
Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, en fin de compte, qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de bonne volonté également, et qu'il suffit de faire se rencontrer les différentes forces vives d'un territoire pour aller dans le même sens, non?
Ouais, exactement. Je pense qu'on a cette chose en commun, Christophe, si je peux me permettre. Effectivement, nous, au niveau de la Fondation, au-delà de parler du PAL et de sa notion de conservation sur le parc, on parle de conservation ex situ, donc en dehors de la nature. Nous, on le complémente avec la protection, la conservation in situ, en finançant des associations sur le terrain. En fait, on se dit qu'il y a plein de gens qui font plein d'initiatives hyper intéressantes et qu'il faut le mettre en valeur. Et c'est notamment ce qui nous tient à cœur. Et on fait une journée qui s'appelle la journée de la Fondation, qui a lieu depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Et c'était aussi le premier moyen de sensibilisation quand on a travaillé avec le Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier. On leur a dit, venez avec un stand, parlez de votre initiative, etc. Et l'autre principe, c'est de dire, c'est hyper bien de protéger les girafes au Niger, c'est ce qu'on fait, on soutient une association qui le fait, mais c'est aussi très bien de sauver les crapauds qui nous entourent.
Eh oui, la nature dite banale, et ça n'est pas un mot péjoratif quand on dit banale, en fait c'est celle que l'on côtoie au quotidien et qui est proche de nous et qui a aussi une grosse valeur patrimoniale, et puis les services rendus par la nature sont nombreux également. Romain, Camille nous a parlé du sonneur à ventre jaune. Rapidement, on peut dire que c'est quand même un amour de petit crapaud, quoi, celui-là.
C'est un amour de petit crapaud. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'il a une particularité assez intéressante. En fait, il a la pupille en forme de cœur. Donc c'est un des critères pour le reconnaître, au-delà de son ventre bien jaune, bien marbré, qu'on repère assez facilement.
Qui lui est propre, d'ailleurs.
Qui lui est propre, mais qui est dessous. Donc le petit crapaud, il est vraiment tout marron. Mais
c'est pas l'empreinte digitale, mais c'est l'empreinte ventrale.
C'est ça. Et donc chaque crapaud a un unique dessin sur le ventre, et ça permet comme ça de les reconnaître. Quand on fait des suivis sur plusieurs années, on retombe sur les mêmes crapauds, donc c'est intéressant. Et cette petite pupille en forme de cœur, c'est vraiment d'ailleurs qui apparaît bien sur l'affiche du festival Crapahut, avec le petit crapaud avec ses petits cœurs dans les yeux.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Suite et fin de notre balade dans le Bourbonnais en compagnie de Romain Deschamps du Conservatoire d'espaces naturels Allier. Romain, on a vu depuis le début de notre balade toutes les actions que vous menez en faveur des amphibiens, qu'on appelle aussi les batraciens, mais aussi les milieux humides. On a pu voir des étangs. Là, on est à côté d'une mare en plein cœur du Bourbonnais et du bocage bourbonnais avec de jolis haies tout autour de nous. Quand on se retrouve face à une mare comme ça et qu'on travaille pour le Conservatoire d'espaces naturels Allier, est-ce qu'on a à cœur de savoir ce qui vit dans la mare? Et si oui, on s'y prend comment pour le savoir?
Alors effectivement, quand on arrive sur une mare comme ça qu'on ne connaît pas et qui, on le sent à force d'avoir étudié des choses comme ça, on arrive sur une mare et on sent les choses, on se dit oulala, là je vois qu'il y a un petit peu de jonc autour.
Comme les Indiens, vous sentez, vous mettez
c'est
l'oreille
ça,
sur le sol.
Je me mets par terre, liche un peu des brins d'air, puis oh. Non, on n'est pas aussi, aussi farfelu que ça, bien que des fois quand on nous voit courir après avec notre filet et tout, on peut penser qu'on est un peu des hippies. Mais avec un clin d'œil comme ça, à voir les libellules qui volent, les grenouilles dans l'eau, tout ça, on sait, c'est une mare intéressante et on le note. On vient pas forcément faire du physique sur la mare, mettre des cache-pièges ou des choses comme ça pour voir les tritons, pour voir ce qu'il y a dans l'eau, mais on peut voir sur une première prospection comme ça de visu ce qui va être intéressant dans cette mare.
Alors, au moment où on diffuse ce reportage, c'est relativement calme. On peut imaginer qu'à partir du milieu du printemps, début de l'été, ça doit y aller quand même, là. Ça doit chanter. Hein.
Ça doit chanter, ça doit voler. Quand on voit toutes les plantes, donc on les voit, hein, qui sont vraiment au fond de l'eau, mais on voit les premières petites pousses qui commencent à arriver. On a vu du myriophylle, on a vu de la menthe aquatique, on a vu de la glycérie qui forme vraiment des herbiers hyper intéressants pour les grenouilles, mais aussi surtout pour les libellules. Là, je pense que c'est une mare qui, en plus, comme elle est protégée, n'est pas trop impactée ni par le pâturage, ni par du broyage ou du fauchage par l'agriculteur. Donc c'est une mare qui doit, je pense, être très intéressante et je pense qu'on tentera de revenir à la bonne saison vers avril, début mai, pour voir un peu ce que ça donne.
Alors, on va se rapprocher de l'endroit où les animaux peuvent venir boire. Au-delà des traces de présence, est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de capturer, piéger, pour recenser les différentes espèces animales ?
Alors pour les amphibiens, on a ce qu'on appelle des caches-pièches, des petits filets en fait qu'on met dans l'eau sous forme de nasses. Donc les amphibiens, par leur activité nocturne, donc généralement on les pose plutôt en fin de journée quand la nuit arrive, avec leur activité nocturne, vont naturellement, par curiosité ou par déplacement, rentrer dans ces petites cages et une fois dedans, ils ne peuvent plus ressortir. Et donc le but, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un protocole, c'est de mettre certaines nasses. On les laisse poser 2 heures dans la mare et au bout de 2 heures, on vient, on les relève pour voir un peu ce qu'on a pu capturer. Donc on capture à la fois les tritons, on peut capturer parfois certaines grenouilles et aussi tout ce qui est têtard et larves d'insectes, de libellules, des notonectes, les dytiques, etc.
Les amphibiens représentent une famille beaucoup plus vaste qu'on ne le pense. Souvent, on parle du crapaud et de la grenouille, mais quand on dit ça, on n'a rien dit, parce qu'en réalité, c'est une famille plutôt variée. Hein.
C'est très très varié. En Auvergne, on a 16 espèces d'amphibiens déjà. Sur une mare comme celle-ci, on peut arriver facilement à 4, 5, voire 6 espèces. Et ça passe par tout ce qui est grenouille. Donc dans les grenouilles, on a bien sûr tout ce qui est grenouille verte, grenouille rousse, grenouille agile, mais il y a aussi la petite rainette, la seule espèce qui est capable de grimper. Donc on trouve souvent soit dans les joncs, soit dans les ronciers et tout ça. On a tout ce qui est triton. Donc dans le bocage, on a notamment le triton palmé, le triton crêté et le triton marbré. Triton marbré et triton crêté qui peuvent s'hybrider. Donc se mélanger et donner un autre triton qu'on appelle le triton de Blasius, donc qui est considéré comme un hybride, vu que c'est un mélange de deux espèces. On a bien sûr la salamandre, qui elle est plutôt inféodée à tout ce qui est milieu forestier. Et enfin, on a bien sûr les crapauds, donc qui se rapprochent plutôt des grenouilles, avec le crapaud commun qui est le plus connu, le crapaud calamite, on a l'alite accoucheur, donc le petit crapaud dont c'est le mâle qui s'occupe des œufs, avec son petit chant flûté assez connu, et on en parlait tout à l'heure, le sonneur à ventre jaune.
Voilà, ça fait une belle famille au total, et qui mérite largement tous les efforts qu'on sent hein, pour les sauver, parce que malheureusement, ce sont des animaux qui souffrent énormément de la modification des milieux et des impacts qu'on peut faire subir au milieu.
C'est ça, là aujourd'hui on parlait plutôt du crapaudrome, donc de l'écrasement routier qui est une des causes importantes de mortalité des amphibiens, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout ce qui est bien sûr destruction de leurs habitats, donc destruction d'une mare, assèchement de zones humides, il y a tout ce qui est sécheresse malheureusement de plus en plus fréquente, et aussi tout ce qui concerne bien sûr la pollution, donc pollution par les routes, par les pluies parfois qui peuvent être assez acides, par l'apport d'intrants dans les cultures et toutes ces choses-là.
Les intrants qu'on appelle aussi les pesticides ou encore les engrais hein, en particulier. Avant de conclure, Romain, il y a une question que je pose assez régulièrement à celles et ceux qui nous guident pour partir à la découverte de l'Auvergne. Cette action que vous menez autour des amphibiens, ça vous apporte quoi à vous personnellement ?
Moi, mon but dans mon métier, donc, c'est bien sûr la connaissance du patrimoine naturel, mais c'est surtout rendre accessible la nature au plus grand nombre. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui viennent et disent « mais moi, un point d'eau comme ça, ça ne me sert à rien, quoi, ça sert à rien ». Et on prend le temps de leur montrer. Donc moi, de voir quelqu'un qui va oser prendre un crapaud dans sa main, qui va oser poser des questions, qui va oser essayer de comprendre simplement la nature, comment ça fonctionne et tout, moi, c'est vraiment ce qui me motive le plus, quoi, venir sur le terrain et me dire bah, « les gens arrivent, ils ont des appréhensions, ils ont des fausses croyances, voire ils s'en foutent ou ils n'ont pas d'avis, et ils repartent, ils se disent « mais c'est incroyable, je vais faire une marche chez moi ». Donc rien que d'entendre ça, moi ça me fait lever le matin et venir au boulot avec le sourire et toujours motivé.
Merci en tout cas Romain de nous avoir accompagnés durant toute cette balade. Encore bravo pour toutes les initiatives que vous conduisez sur le territoire du Bourbonnais au nom du Conservatoire d'espaces naturels alliés et de tous les partenaires qui vous accompagnent. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles découvertes.
Pas de soucis sur le beau patrimoine bourbonnais qui nous entoure. Merci.
Merci à vous. Les amphibiens, grenouilles, crapauds, tritons et salamandres représentent 16 espèces en Auvergne. Elles sont toutes protégées et méritent notre attention. Ces petites bêtes souffrent de la modification des milieux, de la disparition des zones humides, du réchauffement climatique et des multiples obstacles que nous dressons sur les chemins dangereux qu'elles empruntent en période de reproduction. Nombreuses sont les associations qui, chaque année en Auvergne, proposent des animations afin de découvrir et comprendre la biologie de ces petits animaux. Merci à Romain Deschamps du Conservatoire d'espaces naturels alliés de nous avoir guidés en plein cœur du Bourbonnais, entre les étangs et les mares. Merci à Camille Molinetti de la Fondation Le Pal Nature. Merci à Valérie Pocheveux pour la prise de son et Caroline Jean-Gérard pour le mixage. Bon week-end à l'écoute des programmes de France Bleu Pays d'Auvergne et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures dans la belle Auvergne.
Continuez la balade avec H2O sur francebleu.fr.